écoute d'Alter Echo, l'émission de critique des médias, de contre-information hebdomadaire sur Radio Campus et Radio Panique. Avec une équipe réduite aujourd'hui, il y a seulement Nicolas, puisque Nico est en examen. Et Olivier au micro, évidemment. Alter Echo, c'est en direct tous les mercredis soirs à 22h sur Radio Campus 107.2. Rediffusion le vendredi à 14h, toujours sur Radio Campus. Et puis, nouvelle rediffusion le mardi matin sur Radio Panique vers 10h, c'est le 105.4. Et puis toujours le site internet avec les archives, www.collectif.net/alterecho, en un seul mot et avec CH. Cette semaine, Alter Echo sera une oasis sans football. L'indigestion règne dans tout le reste des médias, donc évidemment, nous n'aborderons pas ce thème. Justement, ce sera une émission à thème, puisque nous allons parler aujourd'hui des atteintes à la liberté de la presse et la liberté d'expression en général et aux libertés plus largement. En illustrant ça par l'affaire qui oppose la SNCB au journal de Morgan, nous interviewerons Douglas de Koning, un des journalistes inculpés, vous saurez pourquoi. Et puis une autre affaire judiciaire, c'est Daniel Mermet, inculpé par tout un comité, indigné par des choses qui sont passées dans son excellente émission. C'est Nicolas qui nous en parlera. Et voilà, mais avant d'aborder tous ces thèmes-là, une petite rectification aussi. Nous avons reçu un mail à la rédaction d'Alter Echo. Je vous avais parlé, c'était en fin mai 2001, et puis j'en avais reparlé le 20 juin 2001. C'était l'île au soleil. L'île au soleil, c'était un squat culturel dans l'îlot qui était réservé à un projet que voulait développer Heron City, une grosse société anglaise, un projet immobilier à XL. Concrètement, ça se situe près de l'avenue de la Toison d'Or. Il y a tout un îlot qui est censé être détruit pour faire place à un énorme projet avec piscine, centre de fitness, plein de magasins, peut-être un hôtel, enfin le genre de projet spéculatif vaut immobilier habituel. Et dans quelques-unes des maisons, notamment rue des Chevaliers, c'était le squat culturel en question, mais aussi rue des Drapiers, plusieurs maisons avaient été occupées par des jeunes qui avaient certaines revendications. C'était dans un premier temps, évidemment, l'arrêt du projet Heron City, la réaffectation de cet îlot à des destinations plus sociales, comme des logements sociaux, réfection de bâtiments, etc. Et je vous avais parlé de ce squat à l'occasion d'une expulsion ratée. D'abord une interview avant l'expulsion, puis l'expulsion avait heureusement raté. On en avait reparlé juste après. Et puis j'avais, là, c'était obligé de vous en reparler à la rentrée, c'est-à-dire la première émission en octobre 2001, puisque par un bien mauvais hasard, entre guillemets, le squat en question a été ravagé par un incendie juste quelques semaines après l'expulsion ratée qui avait eu lieu. Alors, à cette occasion-là, j'avais dit que la police avait trouvé un suspect, en tout cas, pensait avoir un suspect, et que ce suspect était parti justement en vacances au moment où on voulait l'interpeller. Il s'agissait de quelqu'un dont la petite amie avait résidé au squat, et il y avait eu apparemment quelques dissensions qui n'étaient pas plus précisées que ça dans la presse. Et on expliquait tout simplement dans la presse, c'était assez rigolo, que la police attendait que le jeune homme rentre de vacances en France pour le cueillir à la sortie du train pour lui demander quelques explications. Et ben cette semaine, j'ai eu un mail de la part de Benoît. Benoît qui dit qu'il habitait là-bas, qu'il était dans la maison pendant l'incendie. Il n'y avait que quatre personnes, dont une personne est hélas décédée aussi en se jetant par la fenêtre pour échapper aux flammes. Donc Benoît était dans la maison pendant l'incendie. Et il est aussi la seule personne du squat à avoir eu des contacts avec la PJ après l'incendie. Et Benoît nous demande de préciser que cette information sur le suspect finalement s'avère fausse. En fait, même avant que j'en parle dans l'émission, la police avait remis la main sur la personne et il s'est avéré que cette personne avait un alibi en béton. Donc voilà qui est corrigé, ce qui fait que pour l'instant l'enquête en est au point mort. La police mène l'enquête, on espère le supposer, mais on devine évidemment où se dirigent les soupçons, et dans ce cas, évidemment, l'enquête pourrait être compromise. Mais justement, je profite de cette rectification, donc je répète, il n'y a pas de suspect et l'enquête est finalement au point mort, Pour vous parler aussi du film Errant City qui vient d'être terminé, la touche finale a été mise. C'est un film de Frédéric Guillaume que Nicolas et moi avons eu l'occasion de voir en avant-première.
Tout à fait.
Et je voulais attirer votre attention sur ce film puisqu'il parle précisément de ce squat de la rue des Chevaliers. C'est un film plein de sensibilité avec de très beaux plans, vraiment super bien construit, très émouvant. Et ce film sera projeté le 8 juin prochain, donc c'est la semaine prochaine ou ce week-end même, samedi.
Mais c'est très bientôt, c'est
Oui,
cette semaine.
c'est dans 2, 3 jours. On perd un peu la notion des jours à force de fureter dans l'information. Donc
C'est samedi soir.
samedi soir, il y aura projection de ce film qui s'appelle Errant City, un film de Frédéric Guillaume, à l'AJC. Et ce n'est pas dans les locaux de l'AJC, mais c'est à l'ESCO, qui se situe 60 rue de l'ESCO à Molenbeek. Il y a des projections à 17h, 19h, 21h et 23h. Et c'est chaque fois un bloc de film. Pour avoir des informations plus concrètes, appelez l'AJC, donc l'association Jeunes Créateurs, quelque chose comme ça, cinéastes.
Jeune cinéaste, ouais.
Oui, c'est le 02 534 45 23, donc 02 534 45 23, si vous voulez plus d'informations sur la projection du film Errant City, qui parle
Un
du
film qu'il
squat
faut
de la rue des
absolument aller
Chevaliers.
voir parce que non seulement, comme tu dis, il est très bien réalisé et puis souligne finalement aussi, malgré soi, tout le problème de la promotion immobilière à Bruxelles
Oui,
et
tout
dans ce
à fait.
quartier-là.
Et il montre aussi des alternatives concrètes tout à fait alléchantes. Voilà, après cette petite info, encore une information, mais qui entre déjà dans le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est le vote de la rétention des données. Alors, jeudi dernier, au Parlement européen, sans surprise, les députés européens ont voté pour la rétention de données, à 350 voix contre 150. Et donc, c'est à une grande majorité, confortable que ça a été voté. Ça a suscité des réactions énormes, mais peut-être que ce serait d'abord opportun d'expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que la rétention de données? Eh bien, c'est l'enregistrement, la collecte, l'enregistrement, le stockage de toutes les traces de connexion que laisse un usager sur les réseaux de télécommunications comme Internet, mais aussi les autres réseaux de communication, qu'il s'agisse de téléphones fixes ou mobiles, moyens d'expression vocaux ou textuels, échange de fichiers audio, texte ou vidéo, tout ça laisse des traces et bientôt. Donc ces données seront retenues, c'est pour ça qu'on parle de rétention des données, et pourront être utilisées, disons, pour contrôler globalement les citoyens. Donc il y a aussi les traces de localisation d'un téléphone GSM et bientôt l'UMTS, qui permettront de suivre les déplacements physiques d'une seule et même personne. Le contenu des messages privés n'est pas concerné par cette mesure, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller écouter les conversations, mais d'après les défenseurs des libertés et les experts en la matière, ces listes de logs qui sont rattachées comme ça chacune à un individu peuvent s'avérer encore plus intrusives et compromettantes pour l'intimité des gens qu'une simple écoute téléphonique, puisque par exemple la liste des numéros de téléphone des appelés ou des personnes appelées ou des appelants d'un téléphone mobile ou fixe, les adresses mail de messages reçus ou envoyés, tout ça est concerné. Donc finalement, les autorités vont avoir accès via probablement les providers à tout ce qu'on fait qui laisse une trace électronique. Et donc en plus, cette surveillance s'effectue de manière préventive, avant la moindre constatation d'infraction, sans qu'un juge d'instruction puisse en contrôler la finalité. Et ça va de la première connexion au réseau téléphonique jusqu'à la liste de fichiers téléchargés par FTP. Donc, on n'a pas le contenu des fichiers, mais on a le titre de tous les fichiers qu'on télécharge sur Internet, des sites web qu'on visite, des forums sur lesquels on laisse des messages, etc., etc. Donc, c'est une loi tout à fait sympathique. On remercie nos eurodéputés d'avoir voté cette loi qui va encore un peu mieux nous fliquer. Et il y a eu quand même des réactions un peu virulentes. Il y a une députée allemande des Verts qui a dit « C'est encore plus fort que la Stasi », c'est Ilka Schröder. Et en fait, ce vote est le résultat d'une pression énorme de la part du Conseil des ministres de l'Union européenne, qui lui-même avait été mis sous pression apparemment par les services de sécurité nationaux et des instances supranationales aussi, comme le G8, qui ont exercé une espèce de chantage. Vous allez voter ça, sinon on le fait passer en force, je ne sais pas
Il faut
comment,
dire
mais bon.
aussi que le G8 qui se retrouve à Kananaskis finalement au mois de juillet, fin juin, début juillet, a mis à l'ordre du jour la lutte contre le terrorisme et ce genre de lois stupides. Puis les Européens doivent être contents d'avoir enfin leur propre réseau échelon à eux, quoi.
Ça aussi. Et puis j'ai entendu dire ce soir même au JT que la Sûreté de l'État voulait se mettre à faire des écoutes téléphoniques. Là, ce sera pour le contenu. Donc voilà, souriez, vous êtes fliqués. Sujet qui introduit parfaitement le thème général de l'émission d'aujourd'hui, puisque nous allons d'abord parler de l'affaire qui oppose la SNCB à De Morgan. En fait, voilà ce qui s'est passé. Deux journalistes du journal De Morgan, Douglas de Koninck et Mark van der Meer, ont écrit un article qui relevait certaines insanités, notamment et en particulier de la gestion financière de la SNCB, et quelle ne fut pas leur surprise. Quelques jours, voire une ou deux semaines après la publication de l'article, de voir débarquer un huissier chez eux à la maison. En tout cas, c'est le cas de Douglas de Koninck. Je crois que Mark van der Meer était en vacances à ce moment-là. Donc, mercredi dernier, un huissier débarque et leur apprend qu'ils sont condamnés à une astreinte de 25 euros par heure, c'est-à-dire 1 000 francs belges par heure, qu'ils ne donneraient pas les documents qu'ils citent dans cet article. Évidemment, ces documents sont secrets dans le sens où il s'agit d'une fuite de la part d'un fonctionnaire indigné par ce qu'il voit autour de lui à la SNCB. Et la remise de ces documents permettrait évidemment d'identifier la source au sein de la SNCB. Et il paraît évident que non seulement les journalistes ne vont pas remettre leurs sources parce que ça fait partie de la déontologie de base du journalisme, mais qu'en plus, c'est vraiment étonnant qu'un juge ait pu répondre favorablement à une requête unilatérale qui allait en ce sens. Donc voilà, je vous propose, à ce sujet-là, nous avons rencontré Douglas de Koninck, qui nous explique absolument tout, notamment sur la SNCB, vous allez en apprendre de belles, mais aussi donc sur cette affaire qui concerne quand même directement la liberté d'expression. Tout ça, c'est parti d'un article bien précis dans The Morgan. Qu'est-ce qui contenait finalement de si litigieux et de si scandaleux cet article?
Bah, je me pose toujours la question parce qu'apparemment les données dont nous en avons parlé dans le journal, ils sont pas vraiment, c'est pas vraiment le contenu de l'article qui est contesté, c'est plutôt la source. Je dirais même, comme mon avocat le dit, c'est uniquement la source qu'on cherche.
Mais prenons les choses dans l'ordre, quel était le contenu?
Ah, ok. Bah, c'est très simple en fait. À Liège-Guillemin, la SNCB est en train de construire une nouvelle gare. Et le concept en fait est un peu orienté de la manière belge, comme dans les années 60 et les années 70. Si la Flandre obtenait une autoroute, la Wallonie fallait une autoroute aussi. Si il y avait un réseau de métro à Charleroi, il fallait des métros à Anvers. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est exactement la même chose. À Anvers, on est en train d'investir dans un tunnel sous la gare pour permettre le TGV de passer la ville. Et donc, il y a une enveloppe de plusieurs milliards qui est libérée pour Anvers, pour des gares. Et conséquence, on va faire un peu quelque chose pareil avec le même montant à Liège. Et donc, d'abord, le coût de la gare, mais là, ça fait plus que 10 ans, on avait dit que ça allait coûter 4 milliards de francs belges. Quand le projet vraiment a été présenté en 94, on parlait de 6,5 milliards. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans le document dont on a parlé dans l'article, c'est des documents venant des gens de la service audit interne de la SNCB. Là, on parlait carrément de 14 milliards. Et selon les renseignements là-dedans, c'est certainement pas le chiffre final, la chiffre finale.
Donc ça va encore augmenter, quoi.
Oui, apparemment, ils ont mal calculé certaines choses, mais c'est très difficile d'avoir une contrôle. Il n'y a pas de contrôle sur ce projet, malgré le fait que c'est payé à 100% avec l'argent du contribuable. On constate que maintenant, on a besoin d'une nouvelle étude de la stabilité de tout le projet, ce qui coûtera 300 millions de francs belges. Puis, il y a le verre, on doit encore calculer le prix de la verre, parce que c'est avec un toit en verre, selon un concept de l'architecte espagnol Calatrava, Santiago Calatrava. C'est un très beau projet d'ailleurs. Il faut certainement pas contester la valeur esthétique qu'on a choisi. Mais le problème, c'est que quand même, la SNCB essaie de limiter les coûts. Et donc, ils ont conclu un accord avec l'architecte. Et on constate que Euroliège TGV, le filiale de la SNCB, en fait, qui doit superviser la construction, est déjà à ses limites financières. Et donc maintenant, on cherche des autres possibilités de donner plus de l'argent de la SNCB à cette gare. Et on fait ça apparemment selon une formule de coup d'hôtel. Donc il y a un fonctionnaire à l'intérieur de la SNCB qui a découvert que l'architecte en question, Monsieur Calatrava, on a loué un hôtel pour lui, quelque part à Bruxelles, avec un coût de, si mes souvenirs sont bons, 800 000 francs par mois. C'est une suite royale. Il me paraît évident que, comme fonctionnaire de la SNCB, si vous constatez ça, vous avez la responsabilité de vérifier les comptes, que vous allez signaler ça et poser la question si c'est normal, si c'est vraiment nécessaire. On constate également que Monsieur Calatrava, il fait payer la SNCB pour des voyages de partout dans le monde. Il s'est fait payer d'ailleurs via des comptes en Suisse. Et il me paraît tout à fait normal qu'il y a des gens qui se posent des questions.
Tu dis que la SNCB essaye de limiter les coûts, mais ça ne se voit pas. Je veux dire, quand on entend tous ces chiffres, on se dit, si c'est de l'incompétence, elle est grave, mais ça commence à flairer plutôt quand même l'arnaque et l'abus et le détournement de fonds, surtout quand on sait que Euroliège TGV, c'est non seulement Vincent Brouillard dont on va reparler, mais aussi Guy Matteau, par exemple.
Oui, ça c'est vraiment une construction dirigée par le PS à Liège. Ça c'est tout à fait clair. Il y a des gens là-dedans que vous allez retrouver si vous faites l'analyse de l'affaire Coles. Vous avez plusieurs noms qui reviennent. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce qui se passe, c'est que il y a les chiffres officiels et il y a les chiffres officieux et un système comme créer des fausses coûts, par exemple pour un hôtel, parce que, à mon avis, Monsieur Calatrava n'a jamais logé dans un hôtel à Bruxelles. À mon avis, ce qu'on a découvert ici, c'est une tentative de créer des coûts fictifs, des frais fictifs. Et on constate qu'il y a plusieurs tentatives, je suis prudent, je parle de tentatives, de créer des coûts cachés pour la SNCB, pour permettre de faire couler plus d'argent direction Liège. Et à mon avis, je crois que c'est quelque part le rôle de la presse, le rôle du Parlement, de signaler ce qui se passe là à l'intérieur de Euroliège TGV, puisqu'il n'y a personne qui peut vérifier que soit quoi que ce soit. Quand vous posez la question comme journaliste à Isabelle Durand, combien va coûter la gare à Liège, elle va vous répondre, je n'en sais rien, je n'ai pas accès au compte. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Pour le journal, je m'intéresse déjà à la SNCB depuis le début de ma carrière, ça fait 14 ans. J'ai vu en 91, sous pression de Jean-Luc Dehaene, qui était ministre des Transports à ce moment-là, ils ont donné un nouveau statut à la SNCB, ils ont donné une sorte de créer une c'était une société publique avec une certaine autonomie. Cette autonomie devrait permettre de diminuer les pertes, enfin, plutôt pas les pertes. Il y a une dette énorme à la SNCB, une dette historique. Ce qui cause problème, puisque l'Europe veut ouvrir les frontières pour les chemins de fer, comme elle a fait dans le secteur aérien. Et donc, il fallait, d'une manière à l'autre, au début des années 90, trouver une solution pour que la SNCB pouvait se débarrasser de sa dette. Il y avait deux possibilités, ou bien l'État prend tout en charge, c'était pas une option, début des années 90, ou bien on crée une possibilité pour que la SNCB ça rapporte l'argent. Ils ont choisi la deuxième option, qui est une bonne option en théorie, sauf que tous les mécanismes qui devraient produire de l'argent sont résultés dans des pertes et des catastrophes financières. Le fait qu'ils ont créé à un certain moment, au lieu de diminuer les dettes, ils ont commencé à investir en ABX. Et c'est quoi ABX? C'est le transport par route. Vous voyez, dans tous les membres d'État en Europe, toutes les sociétés de chemin de fer, ils avaient là quelque part encore quelques camions qui roulaient pour que les frettes pouvaient être transportées devant la porte des gens ou des sociétés. Et c'est un bon système dans les années 50, mais en 2002, il n'y a aucune société ferroviaire en Europe qui fait encore ça, parce que si je me comprends bien, comprend bien les managers, il faut vraiment une approche tout à fait différente si vous voulez voyager. Vous voulez exploiter un réseau de camions, c'est tout à fait différent qu'une société de chemin de fer.
Et ça, ABX par exemple, ça cadre dans cette logique d'essayer de gagner de l'argent pour éponger les dettes.
Oui, Scoop, il a toujours dit, ABX, c'est notre mine d'or. Ça vraiment, ça va nous rapporter.
Les résultats financiers.
C'est incroyable. C'est, j'ai pas les chiffres en tête. Ils ont investi 700 millions d'euros en quelques années. La valeur réel aujourd'hui, ça c'est 500 millions d'euros. Donc on a perdu 200 millions en quelques années. Les pertes, et là-dedans on ne calcule même pas les pertes. C'est l'année dernière, c'était une fois de plus 2 milliards ou 3 milliards francs belges qu'ils ont perdu. Tandis que Scoop a toujours dit à partir de l'an 2000, il y aurait des bénéfices qui allaient ouvrir toutes les portes pour la SNCB.
À qui ça profite tout ça? Parce qu'on voit disparaître énormément d'argent, ou est-ce qu'il passe pas uniquement dans des gouffres financiers comme ABX? On suppose qu'il y a quand même des poches qui se remplissent au passage.
Moi j'en suis pratiquement convaincu. Mais puisque la loi de 91, la loi de Rennes ne prévoit aucun contrôle sur les activités commerciales de la SNCB, parce qu'on considère la SNCB comme une société privée qui, via un système de contrat, a certains devoirs vis-à-vis de l'État. Mais je crois que dans le cas de la SNCB, on doit avouer aujourd'hui que toute cette idée, c'est un échec. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Dans De Morgan, on dit souvent que, on reproche souvent tous les maux de la SNCB à l'appareil PS en Wallonie, et c'est sans doute pas tout à fait faux, mais par exemple, Étienne Scoop est souvent considéré comme le nœud du problème, or lui, c'est un homme du CVP. Est-ce qu'à la SNCB, il y a encore l'ancien gouvernement socialiste socio-chrétien ou quoi? C'est une alliance objective pour s'en foutre plein les poches, finalement?
La réponse est oui, c'est une très bonne analyse. C'est le gouvernement, je dirais même pas des années 90, c'est plutôt le gouvernement de fin des années 80 qui est en quelque sorte toujours en place à la SNCB.
Et le gouvernement arc-en-ciel actuel n'a pas, tout simplement pas le pouvoir de foutre ces gens à la porte, c'est incroyable.
Ah, ils l'ont fait, il y a un nouveau conseil d'administration, mais il y a toujours une comité de direction qui sont toujours les mêmes.
Oui, parce que là on en arrive à ce Vincent Bourlard qui était l'homme visé dans cet article. C'est un grand copain de Matto, ancien syndicaliste d'ailleurs, notons-le au passage. Donc il fait partie de cet appareil PS. C'est lui qui a introduit cette requête, d'ailleurs illégalement, parce qu'il n'a pas le pouvoir de signer tout seul pour la SNCB. Est-ce que tu peux expliquer en très bref ce qui s'est passé après que ce monsieur-là ait lu l'article?
Donc fin de la semaine dernière, le conseil d'administration a refusé les comptes de la SNCB. Pour la première fois en 75 ans, il y a le conseil d'administration qui dit carrément les bilans sont faux. Il faut une correction qui change un bénéfice de plusieurs centaines de millions de francs belges dans des pertes de plusieurs milliards de francs belges. Donc c'est quelque chose assez spectaculaire pour ceux qui suivent le dossier. Maintenant, il faut pas oublier que fin 2001, dans l'hebdo Trends Tendance, il y a eu un article disant le bilan de la SNCB, c'est faux. L'article était, on a compris après, c'est inspiré sur des gens du service audit interne qui ont constaté ça. C'est leur boulot de constater ça. Ils ont constaté ça, ils ont essayé d'avertir les dirigeants de la SNCB qui ont dit non, vous allez vous taire. Puis un des fonctionnaires s'est adressé à le vice-président du conseil d'administration, Monsieur Fontinois. Monsieur Fontinois qui avait ses propres questions au sujet des comptes lui-même. Il a interpellé Étienne Scoop pendant le conseil d'administration. Scoop lui a demandé d'où est-ce que vous retenez toutes ces infos. Il a dit bah oui, voilà, il y a des documents, un homme de service audit interne qui m'a expliqué tout ça. Voici ces documents. Bah, quelques heures après, le fonctionnaire du service audit interne était viré carrément. Dans les semaines qui ont suivi, il y a eu des négociations jusqu'au niveau du Premier ministre, avec les tels que Lecounet, le chef de cabinet qui doit régler tous les problèmes en Belgique, a dû intervenir pour transformer la démission de ce monsieur qui avait 31 ans de service, chef comptable à la CNCB, pour modifier sa démission dans une sorte de. Il a dû rester 2 mois à la maison. Il a dû quitter le service audit interne. Et maintenant, il est quelque part dans un bureau pour surtout rien faire, et rien voir et rien dire. Et donc, quelques mois après, en fait, le scénario qu'on a aujourd'hui, c'est un peu le même.
Sauf que cette fois-ci, donc, on n'a pas connu la source puisque s'il y avait un précédent et que vous avez, les journalistes du Morgan avaient refusé de donner la source, mais c'est ça qu'on cherchait, quoi.
Non, ce n'est que maintenant, je comprends mieux l'attitude de la SNCB. Enfin, je comprends mieux, c'est pas le même mot que apprécier. Parce que très vite après la publication, il y a eu une réaction de la SNCB qui disait, il n'y a pas de documents qui contiennent ces éléments-là. Donc on ne contestait pas vraiment le contenu de l'article, on contestait l'origine. Il n'y a pas de documents. D'abord, quand nous avons reçu les documents, les infos, la première réaction qu'on a eue comme journaliste, c'est de contacter le responsable, Monsieur Bourlard. Monsieur, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, réagir? Parce que ça nous inquiète un peu, ces éléments parlant des coûts d'hôtel de 800 000 francs par mois. Pendant 4 jours, on a essayé, il n'a jamais répondu. Bon, une fois l'article est publié, une fois qu'on publie les réactions de la CNCB, immédiatement, il y a plusieurs coups de téléphone de la service juridique. D'abord, assez poli, il me demandait, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez nous montrer le fameux document? Mais bon, très vite, on a compris que la CNCB cherchait surtout à connaître la source, d'abord d'une manière polie, puis des lettres recommandées, puis vraiment des menaces. Si vous ne venez pas ici le 22 mai, on lance une procédure en justice contre vous. Et bien, c'était la semaine dernière. Pour moi, ça, c'était tellement énorme, je considérais toujours toute l'histoire comme une blague. Des gens qui n'ont jamais lu un journal, qui n'ont jamais s'intéressé à le travail journalistique ou la déontologie journalistique. Parce que ça arrive parfois vraiment des gens qui vivent dans le 19e siècle. Mais donc, une fois que j'avais répondu, une lettre très brève disant qu'il y a monsieur, je remarque et je vous fais l'attention sur le fait qu'il y a une jurisprudence, la Cour des droits de l'homme à Strasbourg, qui donne le droit aux journalistes de tenir secret ses sources. C'est tout ce que j'ai fait. Bon, quelques heures après, sont allés au tribunal et c'est très marrant. D'ailleurs, ils sont allés au tribunal à 4h moins 3, mercredi dernier. Et à 7h, l'huissier était déjà là avec le jugement parce que c'est
Une requête unilatérale en référé, donc la partie accusée n'a pas l'occasion même de se défendre et n'est même pas entendue, quoi.
Oui, en fait, il faut comparer la situation d'une requête unilatérale. C'est que il y a deux personnes qui marchent ensemble dans la rue, il y a un flic qui passe et il n'y a rien qui se passe, le flic ne constate rien du tout. Et l'un dit, lui, il a voulu me tuer. Et le flic se pose aucune question. Immédiatement, il y a les menottes, paf, dans le cachot. Il n'y a aucune question posée à l'homme qui est accusé. C'est en fait une partie qui va au tribunal avec une version des faits. Et le tribunal accepte. Mais de plus en plus, on constate que la loi c'est vraiment une sorte d'abus de pouvoir pour le orienter contre des journalistes, contre des syndicalistes. Et il ne faut pas oublier, parce que vous connaissez peut-être les maisons d'édition Kluwer, je me suis fâché parce qu'il y a deux certains temps, j'étais à la foire du livre à Anvers. Là, j'étais devant le stand de Kluwer. Il y avait vraiment un livre, un pile juridique, avec toute une publicité autour, comment utiliser la requête unilatérale. Et là, Dans la brochure, on expliquait comment on pouvait se débarrasser des syndicalistes, comment on pouvait mal utiliser la loi pour régler ses affaires avec des journalistes. En fait, ce qui est aussi marrant, c'est que M. Bourlard, il lance sa procédure mercredi à 4h moins 3, tout seul. Il n'y a personne dans la SNCB qui est au courant de quoi que ce soit. Le lendemain, c'est dans les journaux. Tous les responsables à la direction et au conseil d'administration dans la SNCB, ils sont tout à fait étonnés. Selon la loi, il faut deux signatures des hauts responsables de la SNCB. En fait, l'administrateur délégué qui doit mettre son accord. Ici, c'est M. Bourlard lui-même qui a fait ça tout à fait solo. Et très vite, dans les réactions, on comprend que la SNCB n'est pas d'accord du tout. Il y a plusieurs responsables, en fait, tous qui pouvaient être responsables dans ce cas-ci. Ils ont dit, moi, je n'étais pas au courant, et en plus, si je l'aurais su, je n'aurais jamais signé. Ben, je vous jure, ce matin, donc, on est lundi aujourd'hui, ce matin, à 9h30, les débats devant le tribunal ont commencé. À 9h12, ça veut dire 18 minutes avant que les débats ont commencé, le comité direction de la SNCB a quand même mandaté les deux avocats de quand même agir dans leur nom. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque part une pression là à la SNCB qui permet des gens qui le vendredi ils disent noir et le lundi ils disent blanc. Mais est-ce qu'on ne peut pas savoir ça? Quels sont les pouvoirs qui jouent? Parce que nous, je sais de source sûre, à 100% sûre, qu'il y a des gens qui le vendredi, qui ont dit à des journalistes off the record, Bourlard est devenu fou, il faut l'arrêter. Et le lundi, ils font exactement la même chose.
Oui, donc toute la SNCB est embarrassée, mais ça n'empêche pas que les choses se terminent comme Bourlard l'aurait voulu, quoi.
On peut s'imaginer tout ce qu'on peut, mais pour me faire dire, un lundi, 100% le contraire de ce que j'ai vendredi, il faut ou bien me donner beaucoup d'argent, ou bien il faut pouvoir faire un chantage sur moi, mais je ne vois pas beaucoup d'autres possibilités.
Oui, donc finalement, la situation à la SNCB est sans espoir parce que même quand toute la SNCB est embarrassée, ça se termine quand même mal à chaque fois. Donc, comment est-ce qu'on va en sortir?
Il faut virer toute la direction, c'est si simple que ça. On peut dire, oui, ils ont beaucoup d'expérience dans le monde ferroviaire. Je suis pas tellement sûr de ça. Ils ont beaucoup d'expérience à gérer la SNCB qui a perdu 100 milliards en 10 ans. En 10 ans, c'est l'époque où ils étaient là. C'était mauvais gestionnaire, c'est si clair que ça. Il faut les virer. C'est la seule solution si on veut éviter un scénario Sabena pour la SNCB.
L'article que Le Monde consacrait ce week-end à cette affaire-là notait dans sa conclusion qu'apparemment il s'agit d'une tendance parce que récemment il y a un journaliste du Latvenish qui a passé quelques jours en prison pour avoir publié des documents. Il y a de plus en plus de procès, enfin de plaintes déposées contre des journalistes pour recel de documents, des indemnités auxquelles ils sont condamnés, etc. On assiste vraiment à une tendance finalement de répression de la liberté de la presse apparemment.
Oui, il faut aller voir sur le site Reporters sans frontières. On remarque maintenant que dans le atlas, dans la carte du monde de Reporters sans frontières, la Belgique est toujours dans la couleur grise, ce qui veut dire pas un climat très bon pour les journalistes, mais quand même encore bon. Mais si je vois le nombre de cas qui sont en train d'apparaître sous la rubrique Belgique, journaliste arrêté. De plus en plus journalistes poursuivis pour recel, entre guillemets. Maintenant, notre cas, qui est assez exceptionnel, il est marqué aussi. Je crois pas que c'est très bon pour l'image du pays. On est maintenant sur la même ligne de Kazakhstan, selon la site web de Reporters sans frontières.
D'un autre côté, pour conclure, ça pourrait entraîner des évolutions positives parce que l'affaire a fait du bruit au Parlement flamand notamment, et apparemment il y a de plus en plus de politiciens qui prennent conscience qu'il faudrait couler dans une loi ce secret des sources, un peu bétonner ce droit à garder ses sources secrètes.
Oui, mais attendons, parce qu'aujourd'hui il y a eu une interpellation au ministre de la Justice, Mark Verheugen, qui a carrément dit, mais non, il ne faut pas de nouvelles lois, il y a déjà plusieurs arrêts de Cour des droits de l'homme à Strasbourg, cette jurisprudence, ça suffit? Ben, je vous jure, monsieur le ministre, ça ne suffit pas. Il y a un jugement qui a été prononcé mercredi dernier qui est là comme si les arrêts du cours à Strasbourg n'ont jamais existé.
Et voilà une interview réalisée dans un café.
Oui, je
Désolé
pensais que
pour
tu
les
étais à la gare
bruitons.
centrale, moi, en
Non,
fait.
non, ça ne s'est pas fait dans une gare, mais ça aurait pu. Moi, ce qui m'étonne le plus dans cette affaire, c'est l'attitude du juge qui a accepté d'accéder à cette requête unilatérale, quand même liberticide, malgré surtout la jurisprudence européenne, parce que le secret des sources est quand même garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui parle de liberté d'expression. Et il y avait une jurisprudence, l'affaire Goodwin de 1996, qui avait résulté en une recommandation du comité de ministres du Conseil de l'Europe pour garantir justement cette confidentialité des sources, dont l'application ne doit connaître que de rares exceptions dans des cas graves et urgents où il n'y a pas d'alternative que de divulguer les sources, par exemple pour élucider une affaire criminelle grave si c'est le seul moyen, ou pour éviter qu'un innocent accusé de quelque chose se fasse condamner si les documents en question peuvent, ou la divulgation de la source peut disculper cette personne. Et dans d'autres pays, cette recommandation du comité de ministres du Conseil de l'Europe a été suivie, notamment en Hollande, en Allemagne, en Angleterre et en France, qui ont respecté cette recommandation par des lois sur le secret des sources ou des circulaires qui sont appliquées. Et voilà, la Belgique n'a rien fait. Une fois de plus, on est bien lotis. Douglas disait tout à l'heure qu'on était environ au niveau du Kazakhstan.
C'est pas
Eh
mal.
bien, voilà, bienvenue au Kazakhstan. Voilà, c'était Stup Flip qui chantait comme les autres. Ben, passons tout de suite à l'affaire Mermet. Nicolas, de quoi s'agit-il?
Mais en effet, le journaliste de France Inter, Daniel Mermet, a été assigné en justice le vendredi 31 mai pour incitation à la haine raciale. En effet, des associations juives accusent Mermet d'avoir diffusé des propos d'auditeurs à caractère antisémite. Ça fait depuis 13 ans que Mermet produit Là-bas, si j'y suis, une émission qui est diffusée quotidiennement à 17h sur France Inter. Là-bas, si j'y suis constitue un brûlot dans le PAF, le fameux paysage audiovisuel français. Cette émission s'attaque au grand problème d'actualité en évitant le ton consensuel et complaisant des grands médias. C'est pour s'être intéressé au conflit au Proche-Orient que Mermet et Radio France ont été attaqués par l'association Avocats sans frontières, l'Union des étudiants juifs de France et l'ALICRA. Ces associations juives reprochent la diffusion de propos incitant à la haine raciale. Les propos incriminés sont des témoignages d'auditeurs sur le conflit israélo-palestinien. Pour ceux qui connaissent l'émission commence toujours avec des répondeurs, des réactions d'auditeurs sur divers sujets. Et c'est durant la saison dernière, du 18 au 22 juin 2001, que Mermet a consacré une spéciale au Proche-Orient. Et dans cette spéciale, il a diffusé 29 commentaires d'auditeurs, dont 11 pro-israéliens et d'autres pro-palestiniens. Ce qui est reproché, naturellement, ce sont les propos pro-palestiniens. Je vais lire rapidement un propos d'auditeur qui est incriminé. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir mortifère qui se complaît dans les assassinats d'enfants et les mutilations, qui justifie l'inacceptable jour après jour avec pour toute recuidance criminelle et qui a l'infâme arrogance de nous traiter de racistes quand on ose timidement protester contre cette conduite indigne. Qu'est-ce que c'est que ces hypocrites qui manient avec tant de virtuosité le bouclier de l'antisémitisme quand on veut juste leur rappeler que depuis 50 ans, ils reproduisent à dose homéopathique l'horrible injustice dont ils ont souffert. Je suis farouchement antisioniste, je ne suis en rien antisémite. C'est pour ce genre de propos et cette autre réaction donc que Mermet a été attaqué. Pour Maître Golnadel de l'association Avocats sans frontières, Daniel Mermet est un militant de la cause palestinienne. Mermet et de nombreux auditeurs ont réagi face à son assignation, car finalement on reproche tout simplement à Mermet de ne pas avoir l'avis de ses associations. Voici donc un extrait de Là-bas si j'y suis et des réactions d'auditeurs.
Ici Michel Barak de Jouk. Je suis un de ces nombreux juifs qui trouvent scandaleux le terrorisme intellectuel qui consiste à déclarer antisémite toute personne, et en particulier des juifs, mais d'autres aussi, se permettent de critiquer les pouvoirs israéliens quels qu'ils soient, et en particulier le pouvoir d'extrême droite qui écrase en ce moment le peuple palestinien. Je suis scandalisé par la nouvelle que je viens d'apprendre de poursuite en justice contre Daniel Mermet et le service public de radio pour cette raison-là et en raison de messages passés. J'assure Daniel Mermet de toute ma solidarité et je pense que contrairement à ce que dit avec audace M. Finkielkraut qui prétend que 95% de juifs seraient d'accord avec cette position, il y a des milliers et des milliers de juifs qui sont en désaccord et qui l'ont exprimé dans des tribunes du monde en tant que juifs et qui le... d'autres qui ne l'expriment pas mais qui le pensent, et d'autres qui l'expriment dans une organisation qui s'appelle l'Union des Juifs Français pour la Paix. Mais de toute façon, c'est intolérable que Daniel Mermet sache qu'il sera soutenu, que nous nous battrons pour que sa liberté d'expression soit maintenue. Merci.
Voilà, merci pour ce message. Beaucoup de messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, suite au... un procès qui nous est fait à moi-même et à Radio France concernant des extraits de messages que nous avons diffusés lors d'une série d'émissions en juin l'an passé, il y a exactement un an. Cette série d'émissions s'appelait Israël, la guerre maintenant. À l'issue du procès qui a duré 8 heures vendredi, aucune peine n'a été requise et le jugement sera rendu le 10 juillet prochain. Je voulais remercier évidemment tous ceux qui nous laissent des messages sur le répondeur ou bien sur le mail de Là-bas si j'y suis. Et les confrères aussi, journalistes qui manifestent leur solidarité ou leur vérité ou leur sympathie. Et notamment Reporters sans frontières. Je le lirai simplement le communiqué de Reporters sans frontières qui dit ceci. Reporters sans frontières exprime son soutien au journaliste Daniel Mermet. Daniel Mermet, etc., a été comparu le 31 mai devant le tribunal correctionnel pour avoir diffusé à l'antenne des commentaires anti-israéliens émanant de plusieurs auditeurs. Reporters sans frontières s'indigne de la mise en cause du journaliste pour la simple diffusion de messages émanant d'auditeurs et s'inquiète plus généralement de la multiplication de mises en cause abusives du droit à la libre expression ces derniers mois en France. Est-il encore possible d'exprimer des opinions tranchées sur l'actuel gouvernement israélien sans être taxé d'antisémitisme? Il n'est pas acceptable que la lutte contre l'antisémitisme soit systématiquement et abusivement invoquée et ainsi galvaudée pour censurer ou sanctionner les mises en cause de la politique d'Israël dans le contexte actuel. Nous mettons en garde contre un recul de la liberté d'expression en France. Voilà, c'est le message de Reporters sans frontières.
On reproche donc à Mermet la diffusion de ses propos. Ne s'agit-il pas en réalité d'une habile tentative de censure de la part de ces associations juives?
Oui, parce Parmi que quand ces... même c'est un peu délirant, accuser Mermet d'incitation à la haine raciale, si on connaît un peu l'émission, c'est du délire.
Mais tout à fait, ça sort du surréalisme le plus complet. Parmi en plus ces associations qui attaquent le journaliste producteur, on trouve entre autres Maître Golnadel, qui est finalement un proche défenseur de Sharon dans son fameux procès qui le mêlait en Belgique. On trouve également justement la, qui fait partie de cette mystérieuse association d'avocats sans frontières, donc association qui n'a rien à voir avec l'autre association dans le procès du Rwanda. Il y a l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, et l'ALICRA. Chose étonnante aussi, de nombreux intellectuels juifs se sont joints à ces associations. Il y a le philosophe Alain Finkielkraut, Alexandre Adler, le rédacteur en chef de Courrier International.
Tous des gens qu'on adore.
Et puis Pierre-André Taguieff, qui n'a pas pu venir, mais qui n'a pas empêché d'écrire une missive bien vitriolée à l'encontre de Mermet. L'audience a donc duré près de 8 heures. En définitive, pour le procureur Christian Lignol, les émissions de Mermet sont à replacer dans un contexte politique, dans un contexte de guerre. En définitive, on reproche à Mermet de ne pas partager l'avis de ses associations. Écoutez donc la réaction de Daniel Mermet. Il répondait à mes questions un peu plus tôt dans la journée par téléphone.
Bah écoutez, moi j'ai produit et présenté une série de reportages en juin l'an passé qui s'intitulait « Israël, la guerre maintenant » et qui était une suite de reportages comme on en fait depuis 13 ans pour cette émission. Donc là, c'était des reportages à Gaza, puis en Israël, 7 heures en tout, et qui, comme c'est notre habitude, prenait comme angle la vie quotidienne, le perçu des choses, le vécu de l'intérieur, dans une situation qui était celle de, bon, on sait quoi, d'une guerre, et d'une violence, et d'inquiétude, et de haine, et d'insécurité. Donc voilà. Alors, à la suite de ça, on a appris qu'il y avait une action qui était entreprise par une association appelée Avocats sans frontières. Les démarches étaient entreprises auprès de Radio France avec une intention d'entamer une action en justice. Alors la première surprise, ça a été de découvrir qu'Avocats sans frontières, que vous connaissez, vous, en Belgique.
Oui, ben, William Golnabel est membre, par exemple.
Oui, alors qu'il n'a rien à voir avec votre association, une association qui a été créée, que je connais bien, qui a été créée à partir de la Belgique, et qui, après le génocide du Rwanda, s'était donné pour objet l'aide juridique aux pays qui étaient dépourvus d'avocats, de magistrats, etc. Voilà. Mais Avocats sans frontières, l'avocat sans frontières de M. Golnadel n'a rien à voir avec ça. C'est un titre qui est tout à fait usurpé. D'accord. Et qu'Avocats sans frontières dénonce d'ailleurs.
Et ils ont eu le droit d'usurper un titre pareil.
Ben, ils ont usurpé un titre, absolument, absolument. C'est le premier scandale de cette affaire. Alors, mais le procès a pu quand même se tenir, malgré cette cause d'irrecevabilité n'a pas été retenue par le tribunal. Donc, les autres causes n'ont plus, enfin, on verra au jugement, lors du jugement, si tout ça a été ou non pris en compte. En tout cas, voilà. Donc, à partir de là, eh bien, c'est... Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit pour les gens qui nous poursuivent de messages des auditeurs. Vous savez qu'au début de notre émission, chaque jour, il y a des messages d'auditeurs laissés sur le répondeur, qui sont comme un courrier de lecteur dans un journal, et qui sont évidemment toujours des coups de gueule, des coups de cœur, des choses qui sont des émotions, oui. Voilà, des interventions courtes. Et là, on a donc diffusé chaque jour des réactions de ces auditeurs. Alors, il y en a une partie qui était favorable à Israël, d'autres qui étaient favorables à la cause palestinienne, d'autres qui étaient, etc. Enfin, il y avait des opinions diverses et variées. Et alors, les personnes qui nous accusent ont pris des extraits de certains messages, sans prendre les choses dans leur contexte, des choses détachées de leur contexte, pour dire là, ces phrases constituent des incitations à la haine raciale et des provocations à la violence.
Donc, alors, si je comprends bien, ce n'est même pas vous qu'on met en cause, mais ce sont des propos d'auditeurs qu'on a décontextualisés. Alors, et c'est finalement une liberté de parole accordée à des auditeurs, ce qui est rare finalement dans les médias et surtout sur les grands médias. Et donc, c'est finalement ça qui pose problème alors.
Voilà, c'est ça qui pose problème. Alors, mais la loi veut que le producteur d'une émission soit responsable de ce qui passe dans son émission d'un bout à l'autre. Hein, si je passe une chanson pornographique qui est jugée pornographique, je suis responsable. Je suis responsable de tout ce qui se passe d'un bout à l'autre sur mon heure d'émission, juridiquement parlant. Donc, je suis responsable. C'est effectivement, d'ailleurs, moi qui choisis les messages, j'en ai la responsabilité. Alors voilà, donc c'est là-dessus que c'est parti. Et bon, alors ce qu'il faut savoir, que tout le monde sait d'ailleurs, c'est que depuis longtemps déjà, depuis presque le début de cette seconde intifada, l'intifada al-Aqsa, certains milieux ultra-sionistes chez nous font pression sur les médias. C'est un véritable harcèlement sur les médias, sur les intellectuels, sur les leaders d'opinion, sur les gens qui ont accès à l'opinion. C'est des chantages, c'est des menaces, ça m'est arrivé, donc des démarches qui sont totalement diffamatoires. Et on a par exemple l'AFP qui devient AFP-OLP. Il y a des manifestations des journées entières autour de l'AFP avec des jets de pourris, de gaz lacrymogène, etc. de la part du Bétard, qui est un mouvement que vous connaissez. Ou bien c'est le siège de c'est le journal Libération avec une remise du prix Goebbels de la désinformation, avec une mise en scène également. C'est LCI qui est... La chaîne islamiste, etc. Alors, c'est pas drôle, hein, c'est pas des choses un peu drôles, ça rappelle, c'est pas l'humour, ça rappelle tout à fait les climats des années 30 en France, de l'époque Je suis partout, Gringoire, etc. C'est à peu près ce climat-là. Alors, et plus des harcèlements personnels, moi j'ai reçu, comme tous les journalistes qui ont eu à traiter ou à couvrir ce conflit, Des messages personnels, des messages très très menaçants. Voilà, tout ça est encore une fois fomenté par une petite poignée très intégriste, très ultra-sioniste qui manipule tout ça, qui détient des sites qu'on peut avoir sur le net, etc. Bon, alors les médias n'en font pas grand état en France parce qu'on dit on va pas leur donner une tribune, c'est pas la peine de mettre de l'huile sur le feu, il y a peut-être d'autres raisons moins nobles qui font que tout cela passe sous silence. En tous les cas, ça passe sous silence. Mais les journalistes le savent très bien. Les journalistes le savent très bien. Donc dans mon cas, je pense que ces associations ont essayé avec moi de faire un exemple. Alors donc il y a Avocats sans frontières qui a réussi à avoir comme participe l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Et puis au tout dernier moment, il y avait le consistoire qui avait été participé et qui finalement s'est désisté. Mais autour du tout dernier moment, ils ont pu le matin même mobiliser la LICRA. Ils avaient des témoins. Des personnalités éminentes de la vie intellectuelle française.
Alexandre Adler, par exemple.
Monsieur Alexandre Finkielkraut. Monsieur Alain Finkielkraut. Monsieur Pierre-André Taguieff, qui n'a pas pu venir parce qu'il était souffrant, mais qui a donné au tribunal un long et copieux témoignage. Monsieur Roger Kuckermann, qui est président du CRIF maintenant, le nouveau président du CRIF. Et Claude Lanzmann qui avait été sollicité, qui ne s'est pas présenté.
Qui ne s'est pas présenté, lui. Voilà. Mais par exemple, je vois que dans Libération, Alexandra Adler, finalement, vous reproche le choix de ses interventions. De son côté, Finkielkraut parle de logique de renversement en parlant d'apartheid, colonisation, martyr juif. C'est toujours un petit peu la même rhétorique qui est utilisée, finalement, comme défense.
Bon, c'est-à-dire que le système est très simple. Il s'agit de... Pour ceux qui sont les instigateurs de cette histoire, il s'agit de considérer M. Goldnadel, William Goldnadel, qui est l'avocat d'Avocats sans frontières, et qui est aussi le président d'Avocats sans frontières, donc cette association fantoche, qui est un militant et qui explique toujours qu'il milite en faisant des procès, hein, c'est sa stratégie. Explique que Israël a perdu la bataille médiatique dans ce conflit, et donc sa stratégie consiste à essayer, si on n'arrive pas à convaincre les médias, ni à les séduire, on les fait taire. Donc en faisant un procès comme celui-là, il s'agit d'envoyer un signal fort aux rédactions et aux journalistes en disant si on emmerde Mermet, on peut emmerder n'importe qui, et donc fermez-la. Et c'est ce qui se passe déjà. Il y a, là, je ne peux pas vous dire que je, 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 j'ai un très grand soutien, par exemple ici à Radio France, j'ai des soutiens qui viennent d'ailleurs, des journalistes plus courageux, plus indépendants, des gens des RFI ou de France Culture, etc. Mais voilà, c'est un signal qui veut dire arrondissez les angles, sinon, voilà. Et c'est ça le premier but. L'autre but, c'est de montrer à la communauté, à ce qu'ils appellent la communauté juive, dont ils se prétendent les porte-paroles, je parle toujours de cette petite poignée d'ultrationnistes, de dire, voilà, on est vigilant, on s'occupe de tout, on vous défend, on laisse rien passer. C'est le message qui... Mais sinon, la stratégie, bon, elle est très vieille, elle est très simple, elle consiste à tout ce qui peut être critique, tout ce qui peut être critique de la politique israélienne est considéré comme de l'antisémitisme.
À force d'utiliser finalement ce terme d'antisémitisme à tort et à travers, on arrive finalement à dénaturer le sens profond de ce mot.
Bien sûr, c'est une banalisation. C'est une banalisation. Hein. On invoque systématiquement et abusivement l'antisémitisme, la judéophobie, et c'est une façon de banaliser l'antisémitisme. Parce que si la base J'y suis est une émission antisémite, alors l'antisémitisme est partout, en France, et ce ministre israélien du tourisme, je crois, qui avait dit la France est le premier pays antisémite, ou bien le congrès juif américain des États-Unis, qui avait lancé un boycott sur la France. À ce moment-là, effectivement, ils ont raison, oui, nous sommes tous des antisémites, quoi. Nous devenons tous, et nous sommes en train de devenir des antisémites. Voilà, je crois que là, c'est très grave, il y a une banalisation de l'antisémitisme dans ces démarches-là, d'une part, et d'autre part, il y a une grave atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'expression, c'est ça qu'il faut. Voilà, c'est ce que je retiens pour l'instant de ces opérations qui relèvent du macartisme.
Donc oui, en définitive, ça fait un petit peu, on va essayer de faire taire Mermet, c'est d'en faire un exemple pour que ben, les autres suivent un petit peu.
C'est un signal.
C'est un signal.
Vous
n'avez pas été pris au hasard, à mon avis, je pense que c'est finalement un symbole. Si le fait que vous faites une émission indépendante ou assez progressiste, ce qui est finalement assez rare dans les grands médias, je pense que c'est un symbole tout de même qu'il cherchait malgré tout.
Oui, je pense que ça vient illustrer... Ça vient illustrer une thèse qui circule depuis quelque temps, qui consiste à dire que maintenant l'antisémitisme n'est plus à gauche, n'est plus à droite, mais est à gauche, etc. Ça c'est des façons de porter le débat. D'abord, c'est plus un débat. Là, on n'est plus dans le débat. On est dans l'accusation. Hein, on est dans un délire accusatoire. Hein, et une radicalisation de l'esprit de suspicion. Hein, si je reprends les termes de Pierre-Henri Taguieff lui-même, la radicalisation de l'esprit de suspicion, c'est bel et bien ça qui se passe. On n'est plus dans le débat, on n'est même plus dans le glade, on n'est plus dans la polémique. Là on est dans le on condamne. On condamne, et si possible, sans appel. Quoi. On voudrait bien qu'il n'y ait pas d'appel. C'est un épisode triste, quoi. Quelque chose de triste... Et c'est des combats très très moches. Alors, on va voir comment les choses évoluent. Mais surtout qu'il y a un deuxième, ils en font un deuxième à la rentrée. La rentrée de septembre, ils préparent un deuxième procès.
Toujours par rapport aux mêmes émissions ou alors pour...
Non, sur d'autres émissions que nous avons faites. Alors, c'est vraiment, ça va être vraiment comique, ce procès-là n'était pas. Mais là, ça va être vraiment comique parce que je crois qu'ils ont mal mesuré. Il s'agit d'émissions qu'on a faites, de reportages qu'on a fait en 98 sur Hans Münch, qui est le dernier médecin nazi d'Auschwitz encore vivant. Voilà, oui. Et donc, j'avais interviewé longuement Hans Münch. Et il a tenu des propos, évidemment, antisémites, enfin, c'est quelque chose d'épouvantable sur les ziganes, sur des... Donc, après la diffusion, enfin, en même temps que la diffusion, on a entrepris une action en justice contre Münch, c'est-à-dire qu'on a sollicité le MRAP, et on a entamé une action contre Münch. Alors, dans un premier temps, on a perdu, parce que une expertise psychiatrique, conduite d'ailleurs par son fils, qui est le meilleur psychiatre de Munich, a permis de mettre en valeur la sénilité de Hans Münch. Sauf que au moment de l'entretien, il n'était pas sénile du tout.
D'accord.
Voilà. Donc nous, on a fait une contre-expertise, on est retourné devant le tribunal, et là, on a gagné. Donc on a fait condamner Hans Münch pour ses propos. Voilà. Mais le jour du procès, de l'appel, j'ai rediffusé
l'émission.
Et le même Goldnadel me fait poursuivre parce que j'ai diffusé des propos condamnés.
Oui.
Donc je suis négationniste.
D'accord.
Si vous voulez, là vous êtes en train de parler avec un antisémite, mais à la fin septembre vous parlerez
un négationniste.
En plus, voilà. Là vous n'avez que la moitié, quoi, pour l'instant.
Donc vous l'avez bien compris, Daniel Mermet n'est pas du tout ce journaliste progressiste ouvert qui fait des émissions tout à fait différentes de ce qui se fait ailleurs. Non, non. Finalement, Daniel Mermet est un vulgaire antisémite et bientôt un négationniste.
Bienvenue donc au pays de la liberté d'expression, sur le continent de la liberté d'expression. C'était donc Alter Echo, merci d'être resté à l'écoute, on empiète une fois de plus d'une ou deux minutes. Les rediffusions de l'émission vendredi sur Radio Campus 107.2 à 14h, mardi matin vers 10h sur Radio Panique 105.4, et puis visitez notre site internet avec toutes les archives, www.collectif.net/alterecho, Alter Echo avec CH en un seul mot. Voilà, à la semaine prochaine, avec toujours une équipe légèrement réduite, mais ce n'est que pour mieux revenir en force par la suite.